Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à l'Europe à quelques semaines des élections. Cette semaine, nous avons retracé la généalogie de l'idée européenne depuis le XVIIIe siècle, imaginé une nouvelle politique commerciale pour le continent et ausculté les réussites et les échecs de la monnaie unique. Aujourd'hui, c'est cette pensée de Chateaubriand qui formera la toile de fond de notre réflexion. La vieille Europe ne revivra jamais, écrivait-il. La jeune Europe offre-t-elle plus de chances ? L'Union des 28 est en effet confrontée à de multiples défis. Et pour certains, son avenir dépendra de sa capacité à démocratiser réellement ses institutions et à faire advenir une Europe sociale. Mais est-ce seulement possible ? C'est ce que nous allons tenter de voir avec nos deux invités. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Peut-on replacer la démocratie au cœur des politiques européennes ? Pour en parler, nous recevons Coralie Delhomme, journaliste et essayiste, co-auteur de l'ouvrage 10 questions plus une sur l'Union européenne, qui sort aujourd'hui aux éditions Michalon. Avec nous également Antoine Vaucher, politiste, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'Université Paris 1 et co-auteur de Pour un traité de démocratisation de l'Europe paru au Seuil. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Coralie Delhomme et Antoine Vaucher.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors comme tous les 5 ans, les citoyens de l'Union sont appelés à élire les 751 eurodéputés du Parlement européen à la fin du mois de mai. En 1979, date de la première élection au suffrage universel, le taux de participation était de 62%, mais ce chiffre est tombé à 42% en 2014. Il faut s'attendre encore à une abstention massive, Coralie Delhomme ?
Oui, je pense. La baisse du niveau de la participation, pardon, c'est aussi lié au fait que les pays d'Europe centrale et orientale ont été intégrés et que eux votent très très peu. Mais c'est vrai aussi que les citoyens se sont rendus compte au fur et à mesure que le vote pour les élections européennes n'avait aucune incidence sur les politiques qui sont menées, notamment économiques, au niveau national.
Les citoyens européens ne voient pas ou ne voient plus l'effet de leur vote, Antoine Vaucher ?
Alors effectivement, je pense que un des éléments qui caractérise le rapport des citoyens et notamment des catégories populaires à la question européenne, c'est moins, je dirais, l'euroscepticisme actif, militant, que une forme d'indifférence à l'égard de ce qui se passe, comme on dit, à Bruxelles. Et puis une forme de résignation, peut-être de fatalisme quant à la capacité des élites politiques et des gouvernements en place à réorienter le cours de la construction européenne en fonction précisément du résultat des élections. Ça, c'est un élément. C'est-à-dire, je pense que arracher effectivement ces citoyens à cette indifférence, ça supposerait peut-être d'autres offres politiques. Parce que aujourd'hui, effectivement, les partis eux-mêmes, c'est pas d'ailleurs complètement nouveau, c'est depuis, effectivement, vous évoquiez 1979, les partis eux-mêmes considèrent que cette élection est une élection de second ordre. C'est une élection dans laquelle, finalement, on va investir moins que dans les grandes élections législatives ou présidentielles. Et d'une certaine manière, ce qui se dessine actuellement pour les élections européennes de mai ressemble pour beaucoup à ce qui s'est dessiné dans les autres élections européennes, c'est-à-dire que on met quoi ? On met des candidats en tête de liste qui sont plutôt des seconds couteaux. Les têtes de liste, les chefs de parti ne s'engagent pas directement. D'une certaine manière, on voit bien que les partis s'investissent moins. Et puis, un autre exemple de ce fait, qui peut-être ne favorise pas la dynamique d'une campagne, c'est qu'on ne connaît pas encore toutes les têtes de liste, ni celle du Parti Socialiste, ni celle de La République En Marche. Et évidemment, quand l'offre politique n'est pas claire,
à se mobiliser.
Ça n'aide pas à la construction d'une campagne.
Et pourtant, ce qu'il faut expliquer, c'est que depuis la création du Parlement européen en 1979, les pouvoirs de ce Parlement se sont tout de même accrus. Ils étaient extrêmement limités au départ, Coralie Delhomme.
Oui, ils se sont accrus et on a présenté ça comme une démocratisation. Mais en réalité, ce qui s'est passé dans le même temps, c'est qu'un certain nombre d'institutions supranationales qui échappent complètement au verdict des urnes, par exemple la Banque Centrale Européenne, se sont quant à elles renforcées à la faveur des différentes crises et qu'elles se sont politisées. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, qui est une entité fédérale adossée à aucun État fédéral et qui dispose seule de la possibilité de manier une monnaie fédérale, à savoir l'euro, s'est considérablement à la fois autonomisée, politisée, renforcée. Et on a vu son rôle de tout premier plan, par exemple dans la crise grecque en 2015, où c'est elle, pour ainsi dire, qui a fait capituler le gouvernement Tsipras en mettant les banques grecques dans un état de sous-financement qui était très très délicat. Et c'est à cause du blocage du refinancement des banques nationales que le gouvernement de Tsipras a finalement été obligé de capituler. Donc on a cette entité qui n'est pas contrôlée par les citoyens ni par aucun parlement, la BCE, qui a la possibilité de mettre en échec un gouvernement qui, quant à lui, est démocratiquement élu.
Vous êtes d'accord avec cette vision, Antoine Vaucher, une BCE dont le rôle s'est politisé et renforcé?
Oui, alors peut-être un mot sur le Parlement avant de parler de la BCE. Effectivement, c'est vrai que le Parlement européen a accru considérablement ses pouvoirs. C'est notamment le cas en matière d'écriture, de co-écriture de la loi européenne. La loi européenne est aujourd'hui faite à la fois par le Conseil, c'est-à-dire les ministres des gouvernements des 27-28, et puis par le Parlement européen. Donc le Parlement européen a aussi gagné énormément de pouvoir de contrôle sur la Commission. Donc d'un point de vue formel, il est incontestable que c'est une institution qui compte plus qu'elle comptait auparavant. Mais il y a un mais, c'est-à-dire que je pense que les limites structurelles de ce Parlement européen sont restées les mêmes. La première, c'est que finalement, ça n'est pas l'institution qui fait l'agenda européen. Il y a deux institutions qui font l'agenda européen. La Commission. La Commission, c'est elle qui a le monopole, comme on dit, d'initiative des lois, enfin d'impulsion normative. Donc, si la Commission souhaite engager quelque chose, c'est elle qui le fait. Mais le Parlement européen, finalement, n'intervient qu'en bout de course, une fois que, y compris les lobbies, sont intervenus au niveau de la Commission européenne. Et puis l'autre institution qui donne l'impulsion, c'est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. En réalité, dans cette configuration-là, le Parlement européen arrive tardivement. Il arrive tardivement quand beaucoup des arbitrages politiques essentiels ont été faits. Et finalement, ce qu'il peut faire, c'est essentiellement améliorer la législation qu'on lui soumet et finalement pas reconstruire ou réorienter véritablement l'Europe. C'est peut-être d'ailleurs un des grands malentendus de l'élection européenne. C'est-à-dire que, comme toute élection, elle conduit les partis politiques à promettre un changement. Après tout, à quoi sert une élection si on ne peut pas véritablement promettre un changement, une réorientation? Mais le Parlement n'est qu'un des acteurs et bien moins actif, d'une certaine manière, que des parlements nationaux qui pourraient davantage peser sur le choix des majorités.
Finalement. Même le vote du budget, par exemple, c'est un rôle qu'elle partage, que le Parlement partage avec le Conseil, alors que normalement, c'est justement une des prérogatives des parlements nationaux.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est effectivement ça. Ça n'est pas un Parlement comme les autres. Ça reste un Parlement qui est marqué par les conditions de sa naissance. Et puis, d'une certaine manière, c'est un Parlement qui est arrivé sur le tard. Bien sûr, il y avait avant 1979, il y avait déjà un Parlement européen, mais il n'était pas élu au suffrage universel direct, il n'y avait pas d'élection directe. Mais donc, comme Parlement qui fait la loi, qui coproduit la loi, il est arrivé sur le tard dans les années 80, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, il est arrivé sur un terrain sur lequel, finalement, c'est-à-dire celui de la politique de Bruxelles, où il avait finalement peu de marge de manœuvre. Il s'est construit comme un Parlement qui est surtout un Parlement du marché unique, plus qu'un Parlement européen.
Et la question qui se pose, ce sont les rapports de force qui existent au sein de ce Parlement européen. Est-ce qu'on peut parler d'une domination allemande, Coralie Delhomme?
Oui, largement. En fait, le fait que le Parlement européen n'ait pas de pouvoir, c'est qu'en fait, c'est pas un Parlement. Il n'est pas représentatif d'un peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il n'y a pas de peuple européen. Les eurodéputés sont les députés des différentes nations qui composent l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, chaque nation a tendance, enfin plus spécifiquement les Allemands, ont tendance à faire prévaloir leurs intérêts nationaux au sein du Parlement européen, et ils l'ont largement pris en main.
Ça a été Martin Schulz à la présidence pendant 2 ans,
le président.
Maintenant, c'est Antonio Tajani, l'Italien.
Oui, l'Italien, mais le secrétaire général du Parlement est allemand. Et ils ont énormément de postes, les Allemands ont énormément de postes dans l'administration du Parlement. Et ils ont également la présidence ou la coprésidence de 4 groupes politiques sur les 8 qui existent, dont les plus importants, à savoir le PPE et le groupe social-démocrate.
Donc le Parti populaire européen, qui est plutôt de droite, et
voilà,
le Parti
les conservateurs et les sociaux-démocrates.
Sur la crise de la zone euro, l'Allemagne a peut-être exercé un leadership, mais c'est elle qui a le plus cédé au regard de ce qu'était sa pensée traditionnelle. L'aide aux pays en difficulté comme la Grèce, l'Irlande, le Portugal et Chypre, les Allemands, n'y étaient pas du tout disposés à la base. Alors que par exemple en France, c'était naturel. Ils ont dû l'accepter. Alors évidemment, ça a été une aide conditionnelle, hein, oui. Mais en tout cas, ils ont dû l'accepter. L'activisme de la Banque Centrale Européenne, qui bien que basée à Francfort, est totalement hors de contrôle désormais de l'Allemagne depuis plusieurs années, ils ont dû l'avaler. La création de l'union bancaire, ils n'y étaient pas favorables. L'application extrêmement souple du pacte de stabilité et de croissance qu'on présente en France comme un dogme, c'est pas quelque chose qui fait plaisir aux Allemands. Donc les Allemands ont quand même déjà dû accepter, avaler, si vous me permettez l'expression, beaucoup de couleuvres.
Yves Bertoncini, alors directeur de l'Institut Jacques Delors, le 7 juillet 2016 sur France Culture. L'Allemagne, au-delà du Parlement, plus largement dans les différentes institutions, a fait plus de concessions qu'on ne veut bien le dire, Antoine Vaucher.
Il est évident que l'Allemagne est prise dans le jeu européen, même si elle est un des acteurs qui a le plus de cartes en main dans le jeu européen. Donc la dynamique du jeu européen fait que l'Allemagne ne décide pas toute seule, que l'Allemagne est obligée de jouer ses jeux à 15 bandes qui sont les jeux des négociations européennes.
Mais le rapport de force ne s'est pas fait qu'en sa faveur.
Et le rapport de force ne s'est pas fait qu'en sa faveur. Je pense que je pense qu'il y a clairement effectivement un ensemble d'idées qui sont proprement allemandes, comme on parle fréquemment de l'ordolibéralisme, cette idée d'une politique d'austérité. Effectivement, il y a des idées de politique économique qui sont celles de l'Allemagne qui l'ont emporté, mais ces idées ont aussi beaucoup de tenants et de supporters, si on veut, dans les différents pays européens, pas seulement en Allemagne. L'Allemagne n'est pas seule, en quelque sorte, à avoir le monopole de l'austérité. Et deuxièmement, la Banque Centrale Européenne, effectivement, comme le disait la personne que vous interviewez, était effectivement, progressivement, s'est autonomisée. Après, on peut pas nier non plus le fait que dans les jeux européens, c'est l'Allemagne qui, notamment dans les jeux économiques européens, c'est l'Allemagne qui est le principal créditeur et qui, à ce titre, du coup, fait jouer et fait valoir ses intérêts. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et je rajouterais aussi le fait que ce qui est assez frappant, c'est pas seulement l'importance de l'Allemagne, mais c'est le fait un peu symbolique que, par exemple, les hauts fonctionnaires français sont complètement pris en quelque sorte dans ce jeu du couple franco-allemand. Et donc l'imaginaire européen, l'imaginaire de la réforme européenne est totalement, enfin moi j'ai fait des entretiens avec certains de la direction du Trésor, etc., est totalement pris dans l'idée d'être crédible par rapport à l'Allemagne et d'une certaine manière Emmanuel Macron, après tout il est d'ailleurs issu de ce milieu professionnel-là, s'est fait élire un peu sur cette idée-là, c'est-à-dire soyons comme les Allemands et nous pourrons changer à notre tour l'Europe.
Et pourtant, Coralie Delhomme, vous avez écrit un livre, je crois, le couple franco-allemand n'existe pas. Comment regardez-vous cette place qu'a prise l'Allemagne au sein de l'Union européenne ?
La place qu'a prise l'Allemagne, alors c'est vrai que l'Allemagne a dû faire des concessions en 2011-2012 quant à la manière de gérer la monnaie unique, parce que sinon l'euro aurait explosé. Et l'Allemagne n'a pas du tout intérêt à ce que l'euro explose, puisqu'il lui profite en premier lieu. En fait, l'Allemagne, c'est vrai que la politique monétaire n'est plus une politique monétaire à l'allemande, mais elle l'a été pendant très longtemps, pour la bonne raison que c'est à ces conditions que l'Allemagne acceptait de se départir de son mark. Et les Allemands ne voulaient pas de l'euro au départ. La Bundesbank, notamment, était très, très fortement opposée pour des questions d'orthodoxie. Hein. Les ordolibéraux allemands souhaitaient ils ont imposé la condition que l'euro soit une monnaie stable, une monnaie forte, etc., gérée par une banque centrale indépendante.
La maîtrise de l'inflation était le dogme.
Voilà, absolu. La stabilité des prix, c'est vraiment quelque chose auquel les conservateurs allemands sont extrêmement attachés, et y compris la population allemande, qui est en plus une population d'épargnants, qui vieillit, etc. Mais la zone euro et le marché unique tel qu'il fonctionne actuellement ont considérablement profité à l'économie allemande, et c'est aussi en raison de sa puissance économique qu'elle est devenue le leader politique. De fait, le marché unique a énormément profité à l'économie allemande parce que la manière dont il fonctionne, avec depuis 86, depuis l'acte unique, avec libre circulation des capitaux, avec libre circulation des personnes, a produit des phénomènes de polarisation, c'est-à-dire que l'industrie de l'Allemagne s'est énormément renforcée et les pays périphériques se sont désindustrialisés. Quant à l'euro, même s'il n'est plus géré à l'allemande aujourd'hui, il est quand même très sous-évalué pour l'économie allemande et surévalué pour toutes les économies, notamment d'Europe du Sud, dont l'économie française.
On a parlé du rôle du Parlement européen. Antoine Vaucher, vous désignez la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission et la Banque centrale par cette expression, les trois indépendantes. Vous diriez que ces institutions ont fait émerger un nouveau type de légitimité politique ?
C'est-à-dire que, en fait, le point de départ, enfin, de cette réflexion sur ces indépendantes, enfin, ces institutions qui sont donc à distance du pouvoir politique et surtout des majorités, des changements électoraux, tient au fait que, le projet européen, la grande affaire du projet européen, on l'oublie peut-être parfois, finalement, derrière toute une série de discours politiques sur l'Europe, le grand projet européen, c'est le marché, c'est la construction du marché unique, c'est l'unification des marchés européens, industriels, économiques, monétaire, etc. Et il a fallu des institutions pour le faire, ce marché, pour le gouverner, en quelque sorte. Le gouvernement de ce marché, de ce grand projet européen, il a été, dans une certaine mesure, confié à des institutions qu'on voulait, justement, à l'abri des aléas de la conjoncture électorale. Ou du jeu des rapports de force entre les États. Et donc on a progressivement, c'est vrai, la Banque Centrale Européenne est l'exemple le plus typique de ça, confié le gouvernement juridique, bureaucratique, monétaire de ce marché à des institutions qui sont à bonne distance effectivement de la politique des partis, de la politique des diplomaties.
Le rôle de la BCE, on l'a dit, s'est beaucoup renforcé avec la crise, mais peut-être qu'on a tendance à voir la Commission européenne comme plus indépendante qu'elle ne l'est en réalité.
Non, je pense que la Commission européenne est dans ses fonctions essentielles extrêmement indépendante des conjonctures électorales. Évidemment, on dira que maintenant le collège est plus qu'avant le collège des commissaires, Juncker, le produit de l'élection européenne. Mais ça, c'est une politisation de surface. L'essentiel, finalement, c'est-à-dire la direction générale de la concurrence, la direction générale du marché intérieur, c'est-à-dire le réacteur nucléaire de la construction européenne, ça, c'est complètement à distance des conjonctures politiques.
Et il y a eu un vrai progrès, en effet, dans le fait que Jean-Claude Juncker, qui était le président du Parti Populaire Européen, a été élu à la tête de la Commission européenne, justement pour tenir compte des élections. Ça, c'est une nouveauté de 2014.
Oui, c'est une nouveauté de 2014. Un des enjeux derrière ça étant de donner des effets aux élections européennes. Je pense que c'est un des enjeux du moment, justement, c'est-à-dire essayer de conjurer cette idée que finalement ce seraient des élections pour rien, puisque en fait la majorité qui ressort de l'élection ne change pas nécessairement les politiques européennes. Donc l'idée c'était de dire, eh bien, la tête de liste du parti qui a la majorité relative devient naturellement le président de la Commission. Ça, effectivement, on peut considérer ça comme un progrès. En tout cas, on peut considérer ça comme permettant de donner plus d'effet aux élections, aux votes qu'on va faire. Néanmoins, il faut bien voir que il n'y a pas de majorité au pouvoir à la Commission européenne. La Commission européenne est composée de sociaux-démocrates, par exemple Pierre Moscovici, elle est composée de libéraux, elle est composée de conservateurs, et ça n'a pas changé. Et donc, il n'y a pas cette espèce de coïncidence des majorités, majorité du Parlement qui crée une majorité de gouvernement, si vous voulez, à la Commission, comme on a dans les gouvernements des démocraties européennes. Donc de ce point de vue-là, cette déconnexion continue à poser problème.
Et c'est ce qui explique, Coralie Delhomme, cette inadéquation entre les citoyens et les institutions qui s'est illustrée à de nombreuses reprises. On pense notamment au rejet du projet constitutionnel européen en France en 2005.
Oui, et un rejet dont il n'a pas été tenu compte, tout comme le rejet néerlandais, tout comme il n'a pas été tenu compte du référendum grec de juillet 2015. Voilà, et je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les gens ne votent plus, c'est parce que, en tout cas pour les élections européennes, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que dès qu'il s'agit d'Europe, lorsqu'un vote est formulé, il est systématiquement retourné en fait. Et les oui se transforment en non et les non en oui. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a cette abstention. Mais l'Europe telle qu'elle a été construite, l'Union européenne, l'Europe et l'Union européenne, ce sont deux choses différentes. Hein. L'Union européenne, c'est contingent, ça existe depuis peu. Il ne faut pas le confondre avec le continent européen et les pays qui le composent. L'Union européenne, la manière dont elle s'est construite au départ, a été faite pour encadrer la démocratie et pour soustraire un certain nombre de choix au débat démocratique. Et quand vous lisez les mémoires de Jean Monnet, par exemple, ou quand vous vous intéressez au parcours de cet homme-là via la biographie d'Éric Roussel, la grosse biographie qu'il a rédigée, vous vous rendez compte que la pensée de Jean Monnet, c'était ça. En réalité, c'était soustraire les décisions importantes à ce qu'il considérait être les passions populaires, autrement dit au débat démocratique.
Nous sommes, nous socialistes et sociaux-démocrates en Europe, d'accord sur un certain nombre de propositions, sur l'alignement de tous les pays d'Europe, sur le meilleur état social.
La question est de savoir si on va harmoniser vers le bas ou vers le haut. Et ça, c'est tout l'enjeu de la construction européenne, notamment l'enjeu de cette échéance.
Mais cette Europe de l'espoir doit être construite autour de la protection sociale qu'il faut maintenir et améliorer.
Toute cette affaire de construction monétaire et d'euro se faisait aujourd'hui jusqu'à maintenant de façon très libérale et uniquement sur les questions monétaires. Et Lionel Jospin avait beaucoup insisté pour qu'on s'occupe d'autre chose.
Et la priorité, c'est l'Europe sociale.
L'Europe n'est pas sociale. Faisons l'Europe plus sociale.
Bref, nous voulons une autre Europe.
Voilà, on entendait les voix de François Mitterrand, Laurent Fabius, Bernard Kouchner, Dominique Strauss-Kahn, Michel Rocard et Martin Schulz, l'ancien président du Parti social-démocrate allemand. Tous promettent de faire advenir cette Europe sociale censée compléter l'intégration économique européenne. Quel lien, peut-on faire, Antoine Vaucher, justement, entre les failles démocratiques de l'Europe dont on a parlé et ses promesses éternellement renouvelées?
L'Europe sociale, c'est effectivement, vos archives sont un petit peu cruelles, évidemment, parce que on a l'impression, et c'est effectivement un petit peu une litanie. L'Europe sociale, ça a été un des grands horizons mobilisateurs autour du projet européen à partir des années 80, et tout particulièrement, effectivement, pour le socialisme français, à partir du tournant de la rigueur de 83, comme un nouvel horizon réformateur pour la gauche. Bon, européenne, enfin réformiste. Évidemment, ça a rencontré en quelque sorte les difficultés de la machine européenne, c'est-à-dire que la question sociale, c'est une question qui se décide à l'unanimité. Et donc, c'est une question sur laquelle il y a des freins considérables et relativement peu d'accord entre les chefs d'État et le gouvernement.
On a beaucoup de mal à trouver des consensus, en effet. Mais alors, par exemple, Emmanuel Macron a proposé un salaire minimum européen. Il a reçu une fin de non-recevoir de la nouvelle patronne de la CDU en Allemagne, Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK. On peut dire que dans ce type de cas, la situation est bloquée, Coralie Delhomme?
Oui, mais l'Europe sociale, c'est une blague en réalité. C'est un slogan, mais c'est antinomique avec ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. On a depuis 1986, depuis la signature de l'acte unique, qui a été élaboré par Jacques Delors, tout de même sur les conseils d'un proche de Margaret Thatcher. C'est ce proche de Margaret Thatcher qui a rédigé le livre blanc qui a été le prélude à la rédaction de l'acte unique. On a une libéralisation totale des capitaux et de la circulation du travail. Et le capital et le travail sont pas à égalité. Il y en a quand même un qui circule beaucoup plus vite que l'autre. Donc les travailleurs, eux, sont bien plus rivés au local. Donc la concurrence est vraiment déloyale.
Et en même temps, on entend parler régulièrement de convergence sociale. À l'heure actuelle, un luxembourgeois a un salaire minimum de 2000 euros quand un bulgare perçoit 260 euros par mois. Donc on a une différence de 1 à 8. Et ce qu'on constate, c'est que si on laisse faire les marchés, ça va prendre des siècles, cette convergence sociale.
Ça n'arrivera pas en réalité. Ça n'arrivera pas. Et il y a d'autant moins d'Europe sociale que ce qu'on appelle le coût du travail, la rémunération du travail, est devenue l'une des seules variables d'ajustement dans les politiques économiques nationales. Parce que on a une Europe avec une monnaie unique, donc plus de possibilité d'avoir une politique monétaire ou une politique de change. À côté de ça, on a le pacte de stabilité et le semestre européen qui font qu'on n'a plus non plus de politique budgétaire. On ne peut plus avoir de politique industrielle parce que c'est contraire aux règles de la concurrence qui sont inscrites dans les traités. On ne peut plus avoir de politique commerciale parce que c'est une compétence exclusive de l'Union qui n'a de cesse de signer des traités de libre-échange comme le CETA, etc. Donc, ce qui reste, c'est la fiscalité. Mais en régime de libre circulation du capital, on a tendance à taxer principalement les PME et les gens. et les très grosses entreprises qui peuvent faire circuler le capital ne sont plus taxées comme avant. Et on a également donc comme autre variable d'ajustement ce qu'on appelle le coût du travail, et qui lui, parce que c'est ce qui reste en fait disponible au niveau des États, est sans cesse tiré à la baisse avec des réformes du code du travail, la loi El Khomri, les ordonnances Pénicaud, etc.
Alors il y a tout de même une nouvelle directive sur les travailleurs détachés qui consacre le principe d'un salaire égal pour un travail égal. Ça va tout de même dans le bon sens, Antoine Vaucher ?
Oui, mais c'est vrai que les limites structurelles là aussi sont là. Je pense qu'il y a eu un basculement en fait parce que c'est vrai que l'Union européenne est le produit de beaucoup de bifurcations. Je ne crois pas que tout était dans le projet de Jean Monnet, ou tout était dans une sorte d'ADN initial. Je crois que il y a eu beaucoup de bifurcations. Il y a eu des moments où on a parlé de planification européenne. Il y a eu des moments keynésiens européens, peut-être rares, mais qui ont existé. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'Europe aujourd'hui est le produit d'une multiplicité de bifurcations, de choix qui ont été faits. Et effectivement, jusqu'aux années 80, ce qui était la libéralisation, c'est-à-dire ouvrir un marché, enfin ouvrir les frontières internes à l'Europe des 12, 17, 16, etc. La contrepartie, c'était des politiques d'harmonisation sociale et il y avait une sorte d'équilibre. On pourrait revenir ça là-dessus plus précisément, mais là où le déséquilibre clair s'est opéré, c'est à partir des années 90 où on a renoncé finalement à contrebalancer les politiques de libéralisation par des politiques d'harmonisation sociale, technique, etc.
Et plus encore dans les années 2000 avec l'arrivée des pays d'Europe.
Tout à fait. Et ce qui fait qu'en réalité, ça a été remplacé par une autre méthode d'intégration, qui est la méthode par la mise en concurrence généralisée, pour le coup, des individus, des territoires et des entreprises, bien sûr, et des États du point de vue fiscal. Et donc, on est dans une nouvelle, phase de l'intégration européenne, et qui explique évidemment tout ce sentiment d'impuissance, puisque la libéralisation, effectivement, continue d'avancer assez rapidement, techniquement même. On pourrait dire. Mais d'un autre côté, l'harmonisation s'est totalement arrêtée net dans la fin des années 80.
Vous êtes d'accord avec cela, Coralie Delhomme, la mise en concurrence sociale et fiscale n'était pas dans l'ADN de la construction européenne ?
C'était évitable dans le cadre du marché commun, ça ne l'est plus dans le cadre du marché unique. Donc, milieu des années 80, à partir de ce moment-là, effectivement, libre circulation des capitaux et des personnes, et ça génère les phénomènes de polarisation dont j'ai parlé tout à l'heure, et les pays périphériques qui se désindustrialisent optent pour des pratiques parasitaires en contrepartie pour s'en sortir en réalité. Donc vous avez des pays qui ne vivent plus que du dumping fiscal, par exemple l'Irlande, et vous avez des pays qui vivent du dumping social, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale essentiellement.
Justement, sur la fiscalité, la commission Juncker avait également inscrit la lutte contre le dumping fiscal dans ses priorités. Au moins dans le discours, on a l'impression que ces questions sont plus présentes. Mais qu'est-ce qu'il en est en réalité, Coralie Delhomme ?
C'est pas vrai. L'Union européenne, c'est une machine à favoriser le dumping, toutes les sortes de dumping. Puisque le coût du travail et la fiscalité deviennent les seules variables d'ajustement disponibles. Donc ça devient une énorme machine à faire du dumping fiscal et à mettre en concurrence les travailleurs de toute l'Union.
Et concrètement, qu'est-ce que cela donne ? Par exemple, dans cette dernière liste noire des paradis fiscaux publiée avant-hier, ce qu'on voit, c'est que la Commission n'a intégré aucun pays européen. Et puis on a vu aussi la difficulté de la France à faire accepter cette fameuse taxe GAFA. Finalement, la France fait cavalier seul sur cette question.
Oui, ça a été mis en échec. Ben, on a des paradis fiscaux internes et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils ne figurent pas dans cette liste. Le Luxembourg est un paradis fiscal, l'Irlande aussi. C'est quelque chose d'assez connu quand même. Et ces pays ont mis en échec la taxe GAFA, mais également l'Allemagne qui n'en voulait pas parce qu'elle est sur une problématique de ne pas trop déplaire aux États-Unis, dans la mesure où, pour l'Allemagne, la relation germano-américaine est structurante. C'est le parapluie américain qui permet à l'Allemagne d'être exclusivement une nation commerçante et de ne pas se soucier de sa défense. Donc pour elle, c'est très important, la bonne entente avec les États-Unis, l'OTAN, etc. Et pour ne pas fâcher les Américains, alors que Trump est devenu est très dur dans ses paroles vis-à-vis de l'Allemagne, est très dur quant à son jugement sur les excédents allemands, l'Allemagne préfère éviter de prendre des risques. Et puis elle préfère aussi éviter de prendre le risque de représailles américaines et des États-Unis qui taxeraient les exportations de voitures allemandes.
Tout comme pour le dumping social, la lutte contre le dumping fiscal, finalement, Antoine Vaucher, c'est que de la rhétorique.
C'est-à-dire qu'on est là dans un jeu, pour le coup, entre gouvernements, pour le coup, effectivement, la question fiscale, comme la question sociale, relève de ce qui est l'unanimité, enfin de ce qui est produit à l'unanimité, des règles européennes qui doivent être produites à l'unanimité, et effectivement, les projets se succèdent.
Il y avait une volonté, par exemple, d'harmoniser la manière de calculer l'impôt.
Oui, il y avait une volonté de créer une assiette de l'impôt sur les sociétés qui soit commune, de manière à éviter justement en partie, puis toujours dans cette idée d'approfondir le marché unique et puis d'éviter des formes d'optimisation fiscale. Mais ce projet est ancien, il a été relancé par Juncker, mais il avait déjà été lancé auparavant, et effectivement les échecs se succèdent. Donc de ce point de vue-là, la méthode intergouvernementale d'intégration pour matière fiscalité a montré son échec.
You killed your European son. You spit on those under 21. But now your blue cars are gone. You better sit so long. Hey, hey, bye, bye, bye. Made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European sun is gone. You better sit so long. Your clouds greet you goodbye.
European Sun des Velvet Underground. Nous poursuivons notre réflexion sur la démocratie européenne en compagnie de Coralie Delhomme et Antoine Vaucher. Alors si on veut changer l'Europe, il faut, semble-t-il, revoir les traités. En théorie, c'est possible, mais dans la pratique, ça semble un petit peu plus compliqué.
Alors, j'explique, moi, depuis 10 ans que j'ai créé l'UPER, qu'on ne peut pas modifier la construction européenne. Elle n'est pas modifiable. Pourquoi ? Parce que, juridiquement, il faut l'unanimité des États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, pour modifier une virgule dans un traité. Alors les traités peuvent être modifiables, mais si tout le monde va dans le sens de ce que souhaite l'oligarchie qui pousse, par exemple, le CETA, etc. Mais ce que veulent Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, mais aussi d'ailleurs Monsieur Fillon, Monsieur Wauquiez ou Madame Artaud, Monsieur Poutou, etc. Tous ces gens qui nous proposent une autre Europe, en réalité, ils voudraient modifier les traités européens au bénéfice exclusif de la vision que eux ont de nos intérêts français. Et encore, ils ne sont même pas d'accord entre eux. L'Europe version Le Pen n'a rien à voir avec l'Europe version Mélenchon, qui n'a rien à voir avec l'Europe version Eva Joly, par exemple. Donc ils font comme s'ils pouvaient modifier quelque chose qui n'est pas modifiable, puisqu'il faut l'unanimité.
François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, au micro de Natacha Polony, le 28 novembre 2017. Il est quasiment impossible de modifier les traités, même si un certain nombre de responsables politiques prétendent le contraire, Antoine Vaucher.
Je pense que l'expérience du traité constitutionnel, qui avait commencé à être élaboré en 2000, et qui a connu la saga qu'on connaît, c'est-à-dire des refus, des référendums contraires, des réécritures, bon, qui a pris en fait toute une décennie et qui a bloqué en fait le fonctionnement dans une certaine mesure des institutions européennes, est resté dans la mémoire des diplomates, des hommes politiques, etc. Je pense que ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que évidemment, là, pour le coup, réformer les traités, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Donc à 28. ou à 27. Et donc, c'est entré dans une phase d'incertitude, et puis pour quelque chose dont on ne sait pas très bien s'il sera véritablement d'une qualité supérieure, politique, sociale, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça paraît un pari, d'autant plus qu'on a des États comme la Hongrie ou comme la Pologne, avec qui on n'a pas nécessairement envie de réformer les traités. C'est en tout cas une des questions politiques qui se posent aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a des intérêts des différents pays membres qui sont trop opposés, Coralie Delhomme, pour espérer une possible réforme des traités.
Oui, alors d'abord, les traités ont été rédigés comme ça. Enfin, l'Europe a été bâtie comme ça, de manière supranationale et non intergouvernementale, pour justement qu'un certain nombre de choix soient soustraits à l'exercice de la démocratie. Donc c'est normal qu'on puisse pas les modifier, ça a été fait pour être gravé dans le marbre. Et puis oui, alors il faut l'unanimité, et c'est d'autant plus difficile que d'abord on est nombreux, et ensuite, économiquement, le marché unique et l'euro ont fait diverger les différents pays, donc ils sont sur des trajectoires opposées. Il y a des pays qui se sont beaucoup appauvris, d'autres qui se sont beaucoup enrichis, et dans ces conditions-là, de divergence des trajectoires économiques, les objectifs des différents pays divergent de plus en plus.
Prenons un exemple concret. Si on voulait, par exemple, intégrer au mandat de la Banque Centrale Européenne des objectifs de croissance et d'emploi, qu'est-ce qui se passerait? Quelles seraient les divisions qui apparaîtraient, Antoine Vaucher?
Ah ben là, pour le coup, il est clair que l'Allemagne serait radicalement opposée à ce type de mandat.
L'Allemagne, mais pas seulement.
Mais d'une certaine manière, c'est peut-être pas la bonne question. C'est-à-dire, il me semble, c'est peut-être quelque chose dont on va discuter après, mais il me semble qu'en réalité, les États, quand il a fallu trouver des marges de manœuvre dans les traités, notamment dans la période de crise financière des années de la décennie 2010, pour aller vite, les États ont trouvé toutes les marges de manœuvre en dehors des traités, dans les traités, en réinterprétant les traités. La Banque centrale elle-même s'est largement affranchie des traités pour abonder les banques de financement. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Donc, en réalité, je pense qu'il ne faut pas trop fétichiser cette question des traités. Je pense que l'erreur, ce serait de considérer que les traités, ce serait presque un peu juridiste de croire que les traités sont justement si inscrits dans le marbre. En réalité, comme toute constitution, je veux dire, elle est en réalité le produit des acteurs qui la font vivre.
Et justement, on trouve des marges de manœuvre, Coralie Delhomme, vis-à-vis des traités, plus que ce que l'on pourrait croire.
Oui, alors, par exemple, la politique monétaire, c'est un bon exemple. Effectivement, si on voulait modifier aujourd'hui le mandat de la BCE, l'Allemagne serait vent debout contre ça, parce que elle, pour le coup, a un fétichisme anti-inflationniste. Donc, contrairement à la Fed américaine, la stabilité des prix prime dans les traités sur la croissance et l'emploi. Mais c'est vrai aussi que, à l'épreuve de la crise, la BCE a modifié sa politique monétaire et elle a créé des instruments de politique monétaire hétérodoxes. Alors il y a eu l'OMT en 2012, ensuite il y a eu le quantitative easing, c'est-à-dire des rachats massifs de dettes souveraines sur le marché secondaire par la BCE.
Normalement
sont interdits par les traités. Mmh. Mais il faut savoir qu'à chaque étape, c'est-à-dire à chaque nouvel instrument de politique monétaire hétérodoxe, des plaignants allemands ont porté l'affaire devant leur cour constitutionnelle, puis devant la Cour de justice de l'Union. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de freiner qui est très forte, notamment de la Bundesbank et d'autres ordres libéraux.
Il y a régulièrement des idées et des propositions pour sauver l'Europe, pour renforcer l'Europe qui émerge, comme on peut l'entendre ici.
On crée une Europe des projets, on crée une institution européenne des réfugiés et de l'immigration. Et cette institution, on lui donne un budget. Et on dit, toute ville, tout département, ça dépend de l'organisation des différents pays, qui accepte de recevoir des réfugiés, elle a une aide financière, et pour les 2 euros qu'on donne pour aider financièrement l'accueil des réfugiés, on rajoute 1 euro pour le budget social de cette ville, de cette région. C'est-à-dire, on incite positivement, on dit, vous y gagnez pour vous, et en même temps, et là, on brise le veto de Visegrad, c'est pas la Hongrie qui accueille, c'est une ville, un village de Hongrie. C'est pas la Pologne qui accueille, c'est Danzig. Et la même chose pour la France. C'est une idée d'une simplicité incroyable.
Voilà, vous avez sans doute reconnu la voix de Daniel Cohn-Bendit, qui proposait donc en novembre dernier la création d'une institution européenne des réfugiés et de l'immigration. Est-ce que là encore, c'est une idée qui est réalisable dans le cadre des traités ?
Non, mais il faut arrêter de créer des institutions. C'est comme dans la lettre d'Emmanuel Macron aux citoyens européens, il propose la création d'une batterie d'institutions. On n'arrive déjà pas à faire fonctionner celles qui existent. La création d'organes administratifs ne règle pas tout, hein. C'est très français, mais en même temps, il faut voir que pour l'instant, on a tout ce que la France a essayé d'initier, elle a échoué. La taxe GAFA, elle a échoué. Le budget de la zone euro que Macron portait et qui a été refusé par les Allemands, ben, ça a échoué. Je pense que pour l'instant, il faut se demander pourquoi ça échoue. Et toutes ces choses échouent parce que les pays sont sur des trajectoires divergentes et que les pays sont en concurrence, sont mis en concurrence par le contenu des traités eux-mêmes, par la manière dont fonctionne le marché unique et par l'existence de l'euro.
Et en même temps, face à la crise migratoire, cette proposition d'une nouvelle institution pouvait sembler légitime, Antoine Vaucher.
Oui, non, mais je pense que c'est un des paradoxes de la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de problèmes européens au sens qu'ils créent des clivages transnationaux. Je suis pas sûr que les clivages entre pays soient les seuls clivages qui aujourd'hui existent politiquement au niveau européen. Sur la question migratoire, par exemple, typiquement, on pourrait trouver, et on trouve en Allemagne, en Italie, etc., un ensemble d'associations, de partis, de mouvements sociaux qui souhaiteraient renforcer l'accueil des migrants, peut-être suivre la proposition qui était évoquée, peu importe. Je pense que sur la question fiscale, sur la question justement de l'harmonisation fiscale, de lutte contre l'optimisation fiscale, on aurait aussi des coalitions politiques, des clivages politiques européens. En réalité, des clivages politiques transnationaux qui traversent justement les différents pays. Et on pourrait dire ça aussi d'un ensemble d'autres questions politiques. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que, notamment, la question environnementale et la transition écologique. Le problème, c'est que l'Europe est incapable aujourd'hui de répondre à ces problèmes politiques européens. Pourquoi ? En partie parce que c'est une Europe essentiellement construite autour de la construction de règles, malgré tout. On dit toujours c'est l'Europe des règles, les règles du marché, faire fonctionner la libre concurrence, faire fonctionner la liberté de circulation. Et pas une Europe qui est une Europe des biens publics concrets. Une Europe qui, finalement, il faut se souvenir que les États-providence se sont largement construits et ont largement construit, intéressé en les catégories, les différentes catégories sociales et ont fait, en quelque sorte, peuple national, largement autour de la construction de l'État-providence, largement autour de la construction, justement, de l'offre de biens publics concrets. Et d'une certaine manière, l'Europe ne le fait pas. Elle n'est pas en situation aujourd'hui de proposer autre chose essentiellement que des règles. Et on pourrait effectivement penser qu'un des enjeux, c'est plutôt d'essayer de montrer dans quelle mesure l'Europe peut résoudre des problèmes concrets, effectivement, sur la question migratoire, sur la question fiscale, etc.
Vous parlez de biens publics européens, et pour cela, il faudrait sans doute un budget de l'Union européenne qui serait bien plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1% du PIB de l'Union européenne, Coralie Delhomme.
Oui, je reviens juste sur cette histoire de les clivages ne sont pas uniquement nationaux, c'est vrai. C'est ce qu'on a en fait, c'est une Europe de classe en fait. Les gagnants de la mondialisation sont hyper européistes et les perdants de la mondialisation sont sceptiques. Et ça se voit dans la sociologie des votes à Maastricht, dans la sociologie du vote pour ou contre le TCE. Donc effectivement, les clivages nationaux ne sont pas les seuls.
Est-ce que l'Europe incarne cette mondialisation dont, effectivement, on a beaucoup dit qu'il y avait des gagnants, des perdants et des inégalités qui se renforcent en Europe actuellement?
Oui, dans cette Europe-là, les traités sont d'inspiration néolibérale. C'est l'Europe de la libre circulation du capital, de la concurrence fiscale, de la concurrence sociale. C'est une Europe de classe.
Et alors, face à cela, ce que vous proposez, Antoine Vaucher, avec Thomas Piketty et d'autres intellectuels, c'est de voter justement un autre traité, peut-être un traité de démocratisation de la zone euro. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, c'est une proposition qu'on a faite avec Guillaume Sacriste, Stéphanie Hennette et Thomas Piketty et Anne-Laure Delatte et d'autres. En fait, ça part un petit peu de cette idée que le marché unique, l'intégration européenne, effectivement, a largement profité à certaines catégories sociales. On pourrait dire, d'une certaine manière, elle a profité, effectivement, aux plus grandes entreprises, elle a profité aux plus grands contribuables, Elle a profité peut-être aussi aux plus gros pollueurs. Et donc, un des enjeux de ce projet, c'est de rétablir en quelque sorte, de faire contribuer de manière plus importante ceux qui ont été les grands gagnants finalement de cette unification en créant des formes d'imposition européenne avec une progressivité. Parce qu'aujourd'hui, finalement, un des effets de cette intégration européenne, c'est aussi peut-être que par les stratégies d'optimisation fiscale, etc., des grandes entreprises peuvent payer d'impôts moins d'impôts que des petites entreprises. Je veux dire. Et donc, un des enjeux, c'est effectivement de rétablir de la progressivité fiscale en créant des impôts européens. Mais ces impôts européens, il ne s'agit pas simplement de créer des taxes, c'est aussi essayer de montrer, d'utiliser cette, effectivement, ces contributions pour des projets européens qui permettraient à l'Europe de ne pas passer à côté des crises, comme c'est le cas depuis 10 ans, c'est-à-dire de ne pas passer à côté de la crise de l'accueil des migrants, de ne pas passer à côté de la crise liée à la perte de souveraineté fiscale, de ne pas passer à côté de la crise des inégalités sociales croissantes, et donc de donner les moyens des biens publics, justement, concrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, effectivement, un budget qui serait à hauteur de 4% du PIB des États européens et qui permettrait effectivement de redonner des marges de manœuvre aux États fiscales, puisqu'une partie de ces 4% serait reversée aux États, ce qui leur permettrait peut-être de baisser les impôts de certaines catégories sociales ou de certaines. Et puis redonner des moyens d'action à l'Europe sur les grandes crises européennes.
L'idée, c'est aussi de redonner du pouvoir au vote. Antoine Vaucher, vous voulez que les élections législatives nationales deviennent en quelque sorte des élections européennes?
C'est-à-dire que le problème de la proposition, parce que Emmanuel Macron et Angela Merkel ont fait une petite proposition assez modeste de budget de la zone euro. Le projet, c'est essentiellement un instrument technocratique qui est décidé, au-delà du fait que c'est des petits budgets, c'est aussi une proposition essentiellement à distance, là aussi, des représentants, des partis politiques, etc. Or là, l'enjeu, quand il s'agit d'un budget, c'est que c'est un instrument politique et un instrument démocratique. Et donc, dans la construction de ces biens publics, eh bien, il faut effectivement associer nécessairement des parlementaires. Mais les parlementaires, c'est qui sont les parlementaires qui votent le budget, un budget qui serait justement un budget tiré de ces impôts-là, eh bien, ce sont les parlementaires nationaux. Et nous, notre idée, c'est effectivement que ce budget doit être fait par une assemblée des parlementaires nationaux, c'est-à-dire associer les acteurs de la des démocraties nationales directement au jeu politique européen. Et du coup, évidemment, quand il y aura des élections européennes, des élections nationales, des élections législatives nationales, elles seront aussi des élections européennes en ce sens.
Mais alors, comment faire accepter l'idée de cette assemblée à l'ensemble des pays européens? Et est-ce qu'elle ne ferait pas concurrence au Parlement européen, puisqu'on a déjà un Parlement européen, Antoine Vaucher?
La faire accepter, notre idée, c'est aussi qu'il faut faire bouger, effectivement, relancer un peu une dynamique européenne, mais pas nécessairement avec les 27 ou avec les 28, mais à partir d'États qui ont effectivement envie de sortir du verrou de l'unanimité, du verrou de l'unanimité sociale, du verrou de l'unanimité fiscale, enfin, c'est ce qu'on a évoqué plus tôt dans la discussion, et pour sortir de ce verrou de l'unanimité fiscale, eh bien, on peut penser que des États, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Espagne, ça peut être, peuvent s'engager et effectivement rendre de nouveau, d'une certaine manière, ces politiques économiques et fiscales européennes attractives, intéressantes.
Mais on a du mal à imaginer que des pays comme justement l'Allemagne ou les Pays-Bas acceptent cette idée de transfert vers des pays plus pauvres dans l'Union européenne.
Mais l'idée, en réalité, l'idée qui est derrière de cette proposition, ça n'est pas de faire une union de transfert qui conduirait à l'Allemagne à payer pour la Grèce.
Et qui provoquerait des blocages immédiats.
En réalité, je pense que l'essentiel des inégalités sociales aujourd'hui, elles sont à l'intérieur des États européens. Et donc, nous avons mis une règle qui fait qu'entre les recettes de ces impôts et les dépenses de ces biens publics européens, il ne devrait pas y avoir plus de 0,1%, peu importe le chiffre ici, d'écart. L'idée, c'est plutôt, justement parce qu'il y a des inégalités sociales nationales, nationale, eh bien, de donner au niveau européen et au niveau national la capacité de répondre à cette à cette inégalité sociale et aussi aux enjeux de la transition écologique.
Coralie Delhomme, sur ces propositions que l'on vient d'entendre.
Oui, j'y crois pas beaucoup à l'avancée sociale dans le cadre de l'Union européenne telle qu'elle est. Moi, je pense qu'il faut défédéraliser l'économie, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement le marché unique et se débarrasser de la monnaie unique, en fait, ni plus ni moins, puisque ce sont des structures qui font diverger économiquement les différents pays. Et revenir à l'embranchement qui était celui qui était possible dans les années 60, en fait, si vous voulez, il y avait deux écoles, hein, pour la construction européenne. Vous aviez l'école supranationaliste, avec les pères fondateurs, etc., qui voulaient faire une Europe économico-juridique qui échappe largement au débat démocratique. Et puis vous aviez les gaullistes qui voulaient faire, de leur côté, une Europe intergouvernementale qui travaille essentiellement dans les domaines régaliens, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de la défense, mais en intergouvernementale, c'est-à-dire en respectant les souverainetés nationales. Mais ça supposerait aussi de faire une Europe à géométrie variable, parce que si on respecte les souverainetés nationales, c'est-à-dire que il faut que tel ou tel pays ait tout à fait le droit de ne pas participer à tel ou tel projet. Et Airbus s'est fait comme ça, en intergouvernemental, à partir de deux pays, la France et l'Allemagne. Et ensuite, comme ça marchait, d'autres pays sont venus s'agréger, mais ils étaient libres de le faire ou de ne pas le faire.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un livre intitulé « Bruxelles chantier » qui se livre à une critique de la construction européenne, tant sur le plan politique qu'architectural.
Exactement, c'est d'ailleurs ce qui fait l'originalité de ce livre écrit par Ludovic Lamant, ancien correspondant de Mediapart à Bruxelles, et qui entraîne le lecteur dans les méandres d'une ville qui ne devait pas être capitale. Au fil des pages, l'auteur dresse d'habiles parallèles entre la manière dont l'Union européenne s'est construite et sa manifestation dans des édifices plus ou moins réunis. Réussi, plus ou moins réfléchi aussi. Récusant l'idée d'une réflexion exacte du projet politique dans ces lieux de pouvoir, comme on a pu le voir dans les régimes fascistes et totalitaires, qui firent de leur architecture une démonstration de force, Ludovic Lamant met plutôt en évidence des analogies, des correspondances entre l'élaboration du projet européen et son inscription dans le paysage architectural.
Il explique ainsi qu'il n'y a pas eu à Bruxelles de véritable plan d'urbanisme, de projet pour la ville.
Oui, il en fait d'ailleurs l'anti-Brasilia, cette ville sortie de terre en quelques années à peine, pour offrir au Brésil une capitale nouvelle et moderne. La capitale brésilienne fut ainsi pensée par l'architecte Oscar Niemeyer et portée au sommet de l'État par le président Kubitschek. Tout le contraire de Bruxelles donc, où les bâtiments du pouvoir européen sont disséminés pour la plupart dans d'impersonnels immeubles de bureaux sans véritable vision urbanistique d'ensemble. Un éclatement architectural et urbain, un manque de vision qui s'explique aussi par les tâtonnements du projet européen. Ainsi, la décision de faire de Bruxelles la capitale européenne est prise extrêmement tard et de manière assez surprenante. En 1958, dans la foulée du traité de Rome, tous les États se battent pour accueillir les institutions communautaires. On décide alors qu'elles seront accueillies tour à tour par les différentes capitales européennes et on se lance de manière alphabétique pour tomber sur Bruxelles. On va donc commencer à s'installer dans l'incertitude la plus totale, à construire quelques bâtiments, à en louer d'autres, sans véritablement savoir si cette présence est appelée à se pérenniser.
Et pour cause, il faut attendre 1992 pour que Bruxelles soit officiellement désignée capitale de l'Union.
Oui, plus de 30 ans donc pendant lesquels l'Union européenne s'est développée, voyant ses compétences s'élargir et ses agents se multiplier, mais toujours dans une forme d'indécision et de tâtonnement, ni concertation, ni plan d'urbanisme pour cette ville dans la ville. Le bâtiment du Parlement européen à Bruxelles est particulièrement exemplaire à cet égard. L'auteur raconte ainsi que rapidement, des voix se sont fait entendre pour qu'un espace de travail pérenne existe pour les députés européens. Pas question pourtant de venir concurrencer officiellement le site de Strasbourg. Ce sont donc des entrepreneurs privés qui vont se lancer dans la construction d'une salle de congrès dont bizarrement la salle principale aura la forme d'un hémicycle. Le Parlement sort donc de terre et au dernier moment l'Union européenne en rachète les murs sans qu'il y ait eu le moindre appel à projet, la moindre étude d'impact.
Un manque de concertation et de démocratie qui serait symbolique du fonctionnement de l'Union.
Oui, car derrière les façades rutilantes et pompeuses des bâtiments européens, on se rend compte que bien souvent les murs se lézardent quand ils ne menacent pas tout simplement de s'écrouler. L'auteur parle même d'un phénomène bruxellois qu'il nomme le façadisme. Pour donner le sentiment de respecter l'esprit des lieux, les institutions européennes, dans leur diversité, conservent la façade des bâtiments. littéralement juste la façade. Parfois même, les fenêtres ne donnent plus que sur du vide pour construire ensuite des bureaux fonctionnels et sans âme. Il faut dire qu'à l'aune du Parlement, nombre de ces édifices ont été construits à la va-vite par des entrepreneurs privés, poursuivant avant tout des logiques financières. Le quartier européen est donc perpétuellement en chantier car les bâtiments ne tiennent pas. Ils sont aujourd'hui devenus le symbole de cette union qui, sous une apparence démocratique, se révèle rongée par la technocratie et l'omniprésence des intérêts privés.
Merci beaucoup Arjuna. Et comme un jeudi sur deux, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Duval qui est ici à nos côtés. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors d'abord le chiffre du jour, 56 000 euros.
Oui, c'est ce que l'euro aurait fait perdre à chaque Français entre 1999, quand il a été introduit, et 2017. Les Italiens y auraient laissé, quant à eux, 73 600 euros, tandis qu'à contrario, les Allemands y auraient gagné 23 100 euros. C'est le principal résultat d'une étude du Centrum für Europäische Politik, think tank ultralibéral allemand.
Est-ce que cette étude vous paraît sérieuse, Guillaume ?
Non, pas vraiment. Elle a beaucoup fait parler d'elle, mais sa méthodologie n'est pas très sérieuse. Elle consiste en effet à comparer la situation réelle des différents pays de la zone avec des pays fictifs, supposés équivalents, mais qui ne seraient pas entrés dans l'euro. Dans le cas de la France, ce pays fictif associerait à 45% l'économie de la Grande-Bretagne et à 55% celle de l'Australie. Entre 1999 et 2018, le PIB par habitant australien a bien gagné 30% et celui de la Grande-Bretagne 25%, tandis que le PIB par habitant français ne progressait que de 17%. Mais comparer la France à la Grande-Bretagne n'a pas grand sens. L'Hexagone n'a jamais eu de gaz dans la mer du Nord, ni au cœur de son économie une place financière équivalente à la City de Londres. Quant à l'Australie, elle doit surtout sa bonne fortune récente à la croissance de ses exportations de matières premières vers une Chine très gourmande dans ce domaine, une dynamique qui n'a strictement rien à voir avec l'économie française.
Donc ce que vous nous dites, Guillaume, en fait, c'est que cette étude est largement bidon.
Oui, mais il n'y avait, à vrai dire, aucun besoin d'avoir les lumières des ultralibéraux allemands pour savoir que la gestion de la zone euro avait été catastrophique après 2008 et que cela avait nui gravement aux habitants de la zone. Le paradoxe de l'affaire étant que cette gestion catastrophique résulte surtout des mesures d'inspiration ordo-libérale imposées durant cette période à leurs voisins par Angela Merkel et son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble. Ils ont en effet infligé à toute la zone des politiques budgétaires trop restrictives et des politiques de marché du travail déflationnistes qui ont maintenu constamment l'économie européenne au bord de la récession. Heureusement, la Banque Centrale Européenne a fini par contrecarrer cette politique stupide avec le quantitative easing après 2012. Elle a réussi ainsi à relancer un peu l'économie européenne, malgré l'opposition constante des représentants de la Bundesbank au sein de la BCE.
Oui, mais c'est vrai aussi que l'Allemagne s'en est beaucoup mieux sortie que les autres pays européens.
Oui, mais c'est parce qu'elle a bénéficié en particulier de taux d'intérêt nettement plus bas que tous ses voisins, du fait que sa dette était considérée comme sûre. Les contribuables allemands ont ainsi économisé 290 milliards d'euros d'intérêt sur la dette publique entre 2008 et 2017, selon la Bundesbank. L'industrie allemande a réussi aussi à compenser les marchés qu'elle a perdus dans la zone euro du fait de ses politiques d'austérité stupides, en exportant davantage vers la Chine et les États-Unis des machines et des grosses berlines, produits sur lesquels elle est très spécialisée, contrairement à la France ou à l'Italie. Elle a pu profiter ainsi pleinement des politiques de relance qui ont été menées dans ces pays-là. Mais c'est aussi la raison pour laquelle son économie plonge actuellement, du fait du ralentissement chinois et des menaces commerciales de Donald Trump. Il y a fort à parier que les ultralibéraux allemands feront moins les malins dans 10 ans.
Merci beaucoup Guillaume Duval. Et alors quelle est la une d'Alternative économique ce mois-ci ?
Donc on a fait un dossier sur Start-up, la grande illusion, la Start-up Nation.
Merci Guillaume, on peut retrouver votre chronique sur franceculture.fr et en podcast.
Monument to those who fall, and it's a
Architecture, The Pavement. Merci beaucoup Coralie Delhomme et Antoine Vaucher de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, nous serons exceptionnellement en direct et en public au Salon Livre Paris pour une émission consacrée à l'économie en fiction avec la romancière Dominique Manotti, le bédéiste Philippe Guillaume et les économistes Jézabel Coupé-Soubéran et Christian Chavagneux. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.